Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à cet épisode de Francophone. Aujourd'hui, on va parler du Centre d'optimisation d'occupation des lits de soins intensifs. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques, je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est, je travaille en soins critiques, en soins intensifs, à l'urgence ainsi qu'à réanimation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dr. Diane Poirier. Bonjour Diane!
Oui, bonjour Mathieu!
Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu nous expliquer un petit peu ton background, ton
oui,
histoire?
Oui, absolument. En fait, je travaille dans les soins critiques, particulièrement les soins intensifs depuis plus de 25 ans, donc plusieurs années. 18 ans à l'urgence, mais principalement depuis 15 ans dans les soins intensifs. J'ai travaillé à plusieurs endroits, mais actuellement, c'est uniquement l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, mais aussi j'ai quelques fonctions au niveau ministériel, mais aussi au niveau du groupe d'experts de soins intensifs du Québec qui s'appelle le GSIC.
Fait que ce qui nous amène à parler un petit peu d'un nouveau service qui est offert au ministère qu'on pourrait appeler le Centre d'optimisation d'occupation des lits de soins intensifs, sur lequel tu travailles, on pourrait dire, un petit peu.
Oui, on travaille un peu là-dessus, mais honnêtement, le projet a très, très, très bien évolué avec le support qu'on a et actuellement, il est fonctionnel. Que si tu veux, là, Mathieu, je vais quand même faire un petit résumé de partir pourquoi on est arrivé au niveau du COOLCI. Hein, le COOLCI étant le Centre d'optimisation d'occupation des lits de soins intensifs. Fait qu'en fait, tout ça part de travaux en fait, qu'on a fait sur des indicateurs, sur les tableaux de bord, mais aussi une demande des DSP, de la table des DSP de Montréal et du groupe d'experts en soins intensifs du Québec, pour essayer d'optimiser les lits de soins intensifs pour pouvoir permettre d'avoir l'accès rapidement à un lit de soins intensifs pour les patients qui en ont besoin. Donc, le but principal du projet était de rendre facilement et rapidement disponible un lit de soins intensifs. Étant donné que la difficulté était principalement à Montréal, parce qu'on a quand même 17 hôpitaux là où il y a des transferts potentiels, évidemment les travaux ont débuté dans le secteur de Montréal. Avant d'en arriver un petit peu plus loin là, pour parler du COOLCI, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour parler des indicateurs. Et la raison, c'est que c'est bien sûr qu'on part un projet, particulièrement comme celui-là, où c'est quand même un projet d'une bonne envergure. Il faut s'assurer d'avoir des bonnes mesures, donc d'utiliser des bons indicateurs et de pouvoir avoir un suivi quand même relativement rigoureux à partir d'un tableau de bord. Donc, les indicateurs, brièvement, là, j'ouvre une parenthèse, il y a environ 7-8 mois, là, presque un an, le GSIC a adressé une demande. Le GSIC est un groupe d'experts, mais qui fait des recommandations au ministère. Donc, c'est pas un groupe là, décisionnel. Donc, il y a eu une demande adressée à l'INES pour faire une étude sur les indicateurs pour les soins intensifs, étant donné qu'au Québec, on ne mesure rien ou presque au niveau des soins intensifs. Donc, on est un peu jaloux de ce qui se fait au niveau des urgences où il y a beaucoup d'indicateurs qui sont suivis. Donc, l'INES a fait quand même une étude assez sérieuse, un recensement de 127 indicateurs et en bout de ligne, il y en a 17 qui ont été retenus. Le document a été présenté au ministère, dont au groupe aussi au GSIC, et le GSIC a décidé de retenir 5 indicateurs de mesure de qualité de ce qui se fait au niveau des soins intensifs. Et à ce niveau-là, ben, il y avait des indicateurs qu'on appelle de processus et des indicateurs de résultats. Donc, très brièvement, les 5 indicateurs, parce que c'est important pour le réseau de bien comprendre qu'il va y avoir des mesures dans les prochains mois, là, qui devraient débuter ou la prochaine année, qui étaient entre autres de mesurer, dans les indicateurs de résultats, on avait les durées moyennes de séjour. Évidemment, on va aller davantage vers la médiane qu'une moyenne dans ces cas-là. On avait les réadmissions dans les 48 heures qui suivent le congé des soins intensifs. Donc ça, c'est des indicateurs de résultats. Pour le processus, ben, on voulait évaluer aussi les jours évitables aux soins intensifs. Donc, quand on donne congé des soins intensifs, on signe un congé, souvent le patient va séjourner quelques jours aux soins intensifs avant de transiter vers une autre unité de soins moins lourde. Donc, ça, on va avoir une mesure. On veut aussi mesurer le délai d'admission de l'urgence aux soins intensifs. Évidemment, à partir du moment où l'intensiviste, le médecin des soins intensifs, signe l'admission, demande une admission aux soins intensifs. Donc ça, je dirais que c'est les principaux. Et le dernier, c'est celui de les congés après 22 heures. Donc, on sait qu'il y a une augmentation de la morbidité lorsque des congés de nuit des soins intensifs. Ce qui nous a amené dans tout ça, là, parce que c'est des mesures importantes, les indicateurs, là, ça nous donne des possibilités d'avoir des suivis, des mesures de ce qui est fait au niveau des processus, des résultats et de faire des interventions éventuellement. Donc, je ne sais pas, Mathieu, si tu veux que j'élabore actuellement au niveau du projet qu'on a mis en place. Je pense que c'était de mettre la table là, au niveau des indicateurs pour un peu expliquer que c'est quand même important dans les mesures des soins intensifs, c'est d'évaluer la qualité, mais il y a des indicateurs aussi qu'on va utiliser dans des projets et nous, on a développé avec le COOLSI d'autres indicateurs qu'on trouve importants de mesurer.
De ce que je comprends, les indicateurs ont vraiment une applicabilité pour le quotidien de nos gens qui sont sur le
Oui,
terrain, là.
tout à fait. En fait, le but principal dans les travaux du G6, c'était d'essayer aussi d'améliorer la qualité parce on n'a pas de mesure dans les soins intensifs. Donc, c'est difficile de faire des études et d'essayer d'améliorer le quotidien et même la gestion des unités de soins intensifs si on n'a aucune mesure. Donc, avec ces cinq indicateurs-là, on devrait être capable de mesurer quand même, avoir des données intéressantes. Ce qui nous, on a fait avec au niveau du ministère, avec le groupe ministériel, mais aussi avec ce qu'on appelle le COFRE, qui est le Centre d'optimisation flux réseau, donc qui est une organisation au niveau du CHUM. On s'est lié avec eux pour faire un projet pour l'optimisation de l'utilisation des lits de soins intensifs. Donc, le principe étant, comme j'ai expliqué initialement, là, d'essayer d'améliorer l'accès au niveau des lits de soins intensifs, mais aussi de faciliter le travail des médecins qui essayent de transférer un patient, surtout des unités de moins lourdes, des unités 1 ou 2 qu'on appelle en soins intensifs, vers des unités tertiaires. Donc, initialement, c'était beaucoup ça. Et on s'est rendu compte aussi dans les analyses que les tertiaires étaient souvent très, très occupés. Et les unités secondaires beaucoup moins occupées. Donc, on s'est dit qu'il faudrait probablement faire aussi le contraire, donc d'essayer de transférer des patients des unités tertiaires vers des unités secondaires pour que les lits de soins intensifs soient utilisés de façon optimale, c'est-à-dire permettre des interventions tertiaires dans les unités tertiaires et les patients qui ont besoin moins de lourdeur de soins intensifs et d'activités surspécialisées. On pouvait offrir la même chose dans les unités secondaires. Oui, Mathieu, est-ce que tu as une question à m'adresser avant que je poursuive?
Non, je te laisse aller.
Okay. Donc, le projet, le COOLSI, en fait, tout ça a débuté l'été dernier où j'ai revisé toute la littérature de ce qui s'est fait, ce qui s'est fait aussi un petit peu ailleurs au Canada, mais aussi ce qui se faisait en Angleterre, ce qui se faisait en Australie, donc dans quelques pays. Et on voulait avoir, contrairement à ce qui se fait en Ontario, on voulait pas juste un centre d'appel où on dirigeait un patient. Nous, on voulait aussi que les médecins puissent se parler pour mieux orienter le patient. C'est-à-dire que parfois, on va appeler un collègue dans une unité tertiaire, puis en discutant avec lui, les recommandations qui sont faites nous permettent d'éviter un transfert, puis pouvoir donner le traitement optimal à nos patients. Donc, le but, c'était de faciliter les transferts, de mieux optimiser les lits, mais aussi avoir des recommandations des experts. Donc, la façon que le projet fonctionne actuellement, parce que c'est en fonction depuis le 4 mars. On a déjà plusieurs cas, plusieurs patients qui ont bénéficié de ce projet-là. C'est que le médecin des soins intensifs qui a un patient qui a besoin, par exemple, d'une unité tertiaire, on va dire, par exemple, un patient qui est en hémorragie importante, qui a besoin d'un protocole de transfusion massive, mais qui a besoin d'une angio-embolisation, puis dans son unité primaire ou secondaire, on ne peut pas offrir ça. Bien, le médecin va appeler le centre d'appel, qui s'appelle le COOLCY. C'est des infirmières, des cliniciennes, infirmiers qui ont été bien formés avec beaucoup de simulations, avec des algorithmes décisionnels, et qui vont prendre l'appel, prendre évidemment toutes les coordonnées, poser quelques questions. On a fait un tableau de bord qui est vraiment informatisé, là, où on peut avoir des données en temps réel de tous les lits disponibles à Montréal, tous les lits qu'on appelle potentiellement disponibles et toutes les demandes de soins intensifs qui ont été adressées aux différents hôpitaux. Donc, quand l'infirmière reçoit l'appel, elle peut facilement vérifier où sont les lits disponibles et les lits potentiellement disponibles. Et orienter le patient selon, évidemment, la lourdeur et l'activité que le service que le patient a besoin. Dans le cas, par exemple, d'une angio-embolisation, bien, elle va regarder l'hôpital le plus près du secteur où le patient doit être transféré, puis où on offre de l'angio-embolisation. Et ensuite, elle va mettre les deux médecins, les deux intensivistes en contact. Si on a besoin d'un troisième, un radiologiste d'intervention, par exemple, on va faire une triangulation, c'est-à-dire on va mettre les trois en ligne ensemble pour pouvoir discuter du cas. Et la majorité du temps, bien, les patients seront évidemment acceptés. Le transfert se fait assez rapidement selon la gravité. Donc, on a utilisé les mêmes priorités que Urgence Santé fait pour les transferts. Fait qu'à date, ça fonctionne bien. On a réussi vraiment à bien mettre ça en place. Évidemment, il y a des ajustements à faire. Mais pour le moment, on a environ une trentaine de patients là, qui ont bénéficié de ce système-là. Et je pense qu'on est assez fiers des résultats actuels.
Ben oui, ça a vraiment l'air de, dans le fond, d'être un facilitateur entre deux intensivistes ou médecins de soins intensifs qui ont besoin d'un service pour un patient, là.
Tout à fait. En fait, ça permet, pour l'intensiviste, d'éviter de magasiner, hein, puis de perdre du temps pour lui-même et surtout pour le patient. Et de l'orienter au bon endroit. Parce que des fois, on peut appeler un collègue qu'on connaît dans un autre hôpital qui va accepter, mais qui n'a peut-être pas toute l'expertise dans le milieu pour offrir les meilleurs soins à ce patient-là. Donc, je pense que ça permet rapidement d'optimiser les transferts, mais aussi de donner les soins optimaux, là, aux patients.
Donc, c'est vraiment de l'optimisation.
C'est vraiment de l'optimisation. Donc, nous, dans notre tableau de bord, où les mesures se font 4 à 5 fois par jour, on met à jour les lits qui sont disponibles au niveau des soins intensifs. Chaque hôpital doit faire une saisie de données. Et ce qui permet évidemment là, au COOLCY, là, aux infirmières, d'avoir les données quand même, pas en temps réel, mais quand même disponibles là, 4 à 5 fois par jour. Ça nous prenait des indicateurs fiables et c'est pour ça qu'il a fallu former vraiment les gens qui font les saisies de données. S'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi un lit disponible, un lit potentiellement disponible, un patient transférable et toutes les demandes qui sont adressées au niveau des soins intensifs. Et nous, à partir de ces indicateurs-là, une fois que les gens ont bien compris, ça nous a permis aussi de faire des formules là, pour avoir aussi d'autres données là, qui nous permettent aussi de faire un suivi et de s'assurer que les délais sont le plus court possible.
Fait que là, ce que je comprends, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière du patient qui doit saisir les données, là.
Non, en fait, ce qu'on a demandé pour le moment, c'est l'assistante infirmière-chef des unités, parce que c'est elle qui a vraiment le coup d'œil rapide sur son unité, qui sait aussi, dans la plupart des hôpitaux, c'est l'assistante infirmière-chef, mais il y en a d'autres que c'est les coordonnateurs d'activités cliniques ou même la gestion des lits. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les lits qui sont libres, où il n'y a pas de patients dans les lits. Et les patients qui ont leur congé des soins intensifs, mais qui restent encore dans les soins intensifs, et le nombre de demandes qui sont adressées aux soins intensifs, c'est-à-dire une demande qui vient de l'urgence, du bloc opératoire, des étages ou de d'autres hôpitaux, par exemple pour les CHU, ben, il y a beaucoup de demandes de l'extérieur. Donc, c'est une saisie qui se fait vite, là. Ça prend vraiment quelques 2, 3 minutes à rentrer, là, parce que des chiffres, c'est vraiment les lits vides et les lits disponibles, les demandes. Fait que c'est très, très rapide à saisir.
Et ça a l'air vraiment bien, puis ça a l'air d'avoir beaucoup optimisé les lits de soins intensifs sur l'île de Montréal.
Ouais, c'est sûr que l'on est en période d'ajustement. À date, les commentaires sont très, très positifs. Donc, on pense que ça va vraiment aider à mieux utiliser les lits de soins intensifs, mais aussi permettre surtout aux patients de recevoir rapidement les soins qui en ont besoin. C'est ça. Pour le moment, le projet est montréalais, mais c'est sûr que Montréal est beaucoup les demandes au niveau des tertiaires, des hôpitaux tertiaires, particulièrement universitaires, sont beaucoup aussi, proviennent beaucoup de la périphérie hein, de Montréal. Donc, le 4-5-2-0, que je vais appeler comme ça pour la Montérégie, Lanaudière, Laval, Laurentides, devrait être intégré dans les prochains mois dans le projet. Et après ça, on va regarder si on fait une intégration de toutes les régions.
OK, donc c'est vraiment appelé à optimiser à la grandeur du Québec.
Bien, probablement que ce serait l'idéal, parce que c'est plus simple d'avoir un centre d'appel où tout est dirigé au même endroit, plutôt que si on est dans le Grand Nord, on est obligé de faire plusieurs appels, et c'est souvent ces gens-là qui ont le plus besoin qu'on les supporte. Fait qu'idéalement, ce serait vraiment de centraliser.
Fait que le message clé à retenir de ça, c'est que c'est un centre qui est pour vraiment optimiser les soins.
Oui, tout à fait. En fait, je dirais, puis j'insiste toujours que c'est un projet de coordination des lits de soins intensifs et non pas un projet de coordination des unités de soins intensifs. Parce qu'on laisse évidemment aux hôpitaux puis aux établissements leur gestion interne au niveau des lits, mais nous, on veut que les lits, parce qu'on en a quand même beaucoup là, de lits de soins intensifs, soient utilisés et disponibles pour les patients qui en ont besoin. Fait que le but ultime du CODCI, c'est vraiment de faciliter les transferts, d'optimiser les lits de soins intensifs et aussi de supporter le corps médical, là, les médecins pour les transferts.
Parfait. Ben, je trouve vraiment que c'est un super projet, puis ça va améliorer la qualité et la rapidité des soins pour nos patients en situation critique.
Je pense aussi, puis avec les données qu'on va pouvoir, parce que nous, on est en train de monter une belle base de données, là, je pense que les données vont nous permettre aussi, en rétrospective, de faire des analyses intéressantes et aussi de faire des travaux pour permettre à certaines unités peut-être de développer davantage et de trouver des façons aussi de faire du mentorat auprès de certaines unités de soins intensifs.
Excellent, mais c'est vraiment un super projet, Dr. Diane Poirier. Merci beaucoup d'être venue.
Ben, ça me fait un grand plaisir, Mathieu.
C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires sur notre site internet francophone.com, sur notre page Facebook, et merci de partager ce balado avec tous les passionnés de soins critiques comme vous. Laissez-nous vos commentaires sur iTunes et Google Podcasts. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.